Kiosque Magazine.
Jeudi 6 juin, bonjour à tous. Nous nous retrouvons pour une heure pour parler d'économie. Je suis tout seul avec vous aujourd'hui, Eric de Belval. François Broder nous retrouvera un petit peu plus tard après ses vacances qu'on lui souhaite excellentes. Alors on va parler d'économie comme d'habitude. Et je vais commencer par vous parler des banques, un sujet qu'on connaît bien ici. Pourquoi les banques sont condamnées à innover? L'innovation, c'est un des moteurs de l'économie. C'est non seulement une fonction vitale pour la plupart des entreprises, mais aussi l'expression d'un mouvement qui lie tous les acteurs de la production entre eux. Alors mon sous-traitant est obligé d'innover s'il veut me vendre les composants utiles à la finalisation de ma propre innovation. Et ceux qui s'arc-boutent sur la force ou l'éternité d'un type de fabrication sont la plupart du temps condamnés. C'est l'exemple des fabricants de chandelles au moment de l'arrivée de l'électricité. Eh bien ce principe, figurez-vous, vaut aussi pour les banques. Alors je ne sais pas si c'est une transition heureuse, mais après on parlera de la Grèce, mais pas de la Grèce dans le malheur. On a parlé jusqu'à présent de la Grèce qu'en commentant ses problèmes et en mesurant l'ampleur de la catastrophe, qu'elle soit annoncée ou subie. Eh bien, il existe en Grèce des poches de santé économiques, y compris au niveau de certaines entreprises, qui n'ont par exemple ni augmenté leurs prix, ni diminué les salaires, ni licencié. Est-ce qu'elles pourront durer longtemps? C'est une autre affaire. On en parlera. Et puis, retour sur les téléphones intelligents. Vous savez combien je les déteste. Eh bien, on connaît l'excellente formule « La confiance n'exclut pas le contrôle ». C'est un principe qu'on peut appliquer, par exemple, en faisant ses courses dans un supermarché et constater dans le bac où se trouvent les viandes emballées que la date de péremption est passée alors qu'on faisait toute confiance au magasin. Et Dieu sait que ça arrive souvent. Eh bien, poussons l'application de ce bon principe jusqu'aux objets personnels comme le cellulaire auxquels on confie bien des secrets. Vous croyez protéger des intrusions par les constructeurs ou les opérateurs? Eh bien, déchantez. Ensuite, retour au produit intérieur brut chez nous. Voilà que des semaines que le mot de récession traverse bien des éditoriaux et autant de semaines que le point de vue officiel, notamment celui du ministre des Finances, vient contredire ces points de vue et dire haut et fort que le Canada ne connaît point la récession. Alors qu'en est-il? On se penchera sur cette question. Ensuite, un petit tour chez nos grands voisins et à la réaffirmation tonitruante de Barack Obama pour ses ambitions face au réchauffement climatique. Il l'affirme. Son plan pour une énergie propre, America's Clean Power Plan, dont la version finale a été publiée lundi dernier, marquera une étape encore jamais franchie. Et on restera pour terminer aux États-Unis pour commenter le salaire minimum qui va, semble-t-il, énormément évoluer. Et tout ça, c'est dans quelques instants. Alors parlons un peu des banques. Je vous le disais, une entreprise qui n'innove pas ou qui refuse l'innovation, elle est condamnée. Et on le comprend facilement dans le champ de la production d'objets. J'avais cité comme exemple les fabricants de chandelles au moment de l'arrivée de l'électricité, c'est ce que tout le monde connaît. Est-ce que c'est vrai également pour les services? Et il semble que oui, y compris pour un service qui peut, à tort, pouvoir sembler échapper à de grandes mutations, celui des banques. Ça a intéressé Rob Tarkoff dans Les Échos, et qui nous explique pourquoi les banques sont condamnées à innover. Difficile d'imaginer un monde dans lequel les banques traditionnelles n'existent pas, n'est-ce pas? Pas si on ne les a jamais connues, ce qui peut être le cas de la jeune génération aujourd'hui, ou si on trouve que leurs alternatives offrent tout simplement une meilleure expérience client. Les solutions et applications financières non conventionnelles constituent une menace de taille pour les institutions financières traditionnelles, comme en témoigne le nombre de clients qui ont compris le côté simple et pratique d'applications financières telles que Stripe, ClickX ou Triple T. Et pourtant, il semblerait que les institutions financières n'aient pas encore réalisé qu'elles étaient en danger. Jamie Dimon, PDG de JP Morgan, a récemment fait remarquer dans sa lettre aux actionnaires « La Silicon Valley arrive ». En réalité, la Silicon Valley est déjà là, et ce depuis au moins 2 ans. Elle détourne déjà des institutions financières traditionnelles et à vitesse grand V des générations entières de clients. En voyage d'affaires à Boston, j'ai récemment effectué plusieurs trajets en taxi, via Uber ou non. Rien d'inhabituel en soi, mais j'ai remarqué que les chauffeurs non-Uber avaient tous leur propre lecteur Square. La popularité des applications de paiement mobile va continuer de croître. Elle compte déjà plus de 300 millions d'utilisateurs par an. Et bientôt, les banques cesseront de jouer leur rôle d'intermédiaire de confiance. Le principal avantage des banques est qu'elles sont toujours considérées comme l'endroit le plus sûr où confier son argent. Mais cela ne suffit pas pour survivre. Les banques doivent innover pour ne pas se laisser distancer par leurs concurrents digitaux et donner un bon coup d'accélérateur pour se transformer. Pour comprendre à quel point elles ont besoin de changement, elles doivent inclure leurs clients dans le processus. Comment? Certaines banques novatrices ont créé des communautés de clients en ligne. Barclays et Coortal Concerns ont déjà ouvert la voie d'un nouveau modèle de banque digitale en créant des communautés florissantes dans lesquelles les clients jouent le rôle principal en déterminant le développement des produits et solutions et participent à des discussions continues permettant à ces banques de suivre les attentes de leurs clients. De telles communautés fidélisent les clients, leur offrent un espace où poser des questions et y répondre, ou communiquer à la banque leurs exigences et contribuent sans conteste à accroître le chiffre d'affaires. En réalité, les membres de ces communautés sont davantage enclins à acheter plus de produits et à dépenser plus à chaque achat que les autres clients. Mais il ne suffit pas d'interagir sur son site web. Il faut intégrer ces conversations au parcours du client sur tout le web social. Les clients tiennent des milliers de conversations sur des sujets financiers, allant des événements marquants de leur vie, des plus joyeux, naissances, retraites, etc., aux plus dramatiques, décès ou autres. Les banques auront de plus en plus de difficultés à jouer un rôle significatif dans ces conversations si elles n'impliquent pas davantage de parties prenantes dans leurs efforts. Une approche de communauté dans le secteur bancaire offre ce que les banques traditionnelles ont l'habitude de créer, un sentiment d'appartenance chez leurs clients. Elles impliquent l'ensemble de leurs parties prenantes, clients, collaborateurs, actionnaires et partenaires. C'est de cette manière que les banques traditionnelles pourront l'emporter sur les applications financières digitales, en exploitant la puissance du lien humain. Les applications sont certes pratiques et oui, les clients exigeront le même niveau de simplicité, mais les banques qui proposent une communauté où les membres se sentent connectés et valorisés en tant qu'êtres humains pourront offrir ce qu'une application ne pourra jamais offrir, une dimension humaine et un véritable être humain de l'autre côté de l'écran. Les institutions financières sont connues pour leur approche lente et conservatrice en matière de changement, mais la menace n'est pas imminente et elle est déjà là en force. Si les autres institutions financières ne suivent pas l'exemple de Barclays et Coortal, elles n'existeront plus dans quelques années. À la fin de la lettre aux actionnaires mentionnée plus haut, Jamie Dimon soulignait que les banques analysent toutes les données de la concurrence avant d'élaborer une réponse. Désolé, Monsieur Dimon, mais cela prend trop de temps. Les banques qui s'adressent directement à leurs clients et leur offrent ce qu'ils veulent se rendront compte non seulement qu'elles peuvent survivre, mais que c'est seulement ainsi qu'elles pourront se développer. Alors je trouve que cet article pose assez bien le problème. C'est encore à nouveau le problème de l'ubérisation générale de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on consomme, etc. Mais néanmoins, il faut peut-être rester prudent. Je pense que si vous avez besoin de faire opposition à votre carte de crédit parce qu'on vous l'a volée, vous serez content d'avoir quelqu'un au bout du fil à qui vous pourrez expliquer que vous êtes en larmes, que c'est très triste et que vous avez besoin d'un petit peu de réconfort. Ça sera certainement plus utile que le simple clic que vous ferez pour interdire que quelqu'un s'en serve. Alors, je pense qu'il faut faire les deux. Je pense que ça veut aussi probablement dire que les banques, y compris le gars ou la fille qui est derrière son guichet et qui vous accueille quand vous venez chercher votre chéquier, c'est plus sympathique que votre clavier. Alors, on repart en Grèce. Je sais que je vous y emmène quasiment toutes les semaines et bon, je suis tellement confus de l'avoir fait à chaque fois pour vous dire « Attention, ça va mal, tout va exploser. La Grèce emmène tel un boulet terrible le monde au fond d'un océan de malheur. » Eh bien, pour une fois, j'ai trouvé quelqu'un qui s'est renseigné sur ce qui va bien en Grèce. Donc, je sais qu'on a assisté au plongeon des valeurs grecques lors de la réouverture de la banque d'Athènes lundi dernier, principalement à cause des valeurs bancaires, et puis essentiellement via des ordres qui ont été passés depuis l'étranger. Alors, en passant, on imagine ce que la situation aurait été si la Grèce était sortie de l'euro avec cette réouverture de la bourse lundi. Bon, eh bien, réjouissons-nous de savoir que quelques entreprises assistent à la récession. En tout cas, ça a réjoui Florence Aubena dans Le Monde du 1er août. Exception dans un pays rongé par la crise. Catel n'a ni augmenté ses tarifs, Catel c'est le nom d'une société, ni baissé les salaires. Une démarche vertueuse que les derniers accords avec Bruxelles pourraient remettre en question. Certains jours, les pas de Bessie Dino Poulou la conduisent, sans même qu'elle y prenne garde, vers la gare routière de Patras, une modeste bâtisse qui donne sur le vieux port. Bessie Dino Poulou, élégante veuve blonde, traverse la salle d'attente et son sac à main se balance à l'arrondi de son bras. Sur les bancs, quatre soldats l'attendent, l'autobus express de 12h30 pour Athènes. Des paysans ont posé devant eux des semis de tomates emmaillotées comme des nouveau-nés. Une famille se tient debout, très droite, dans des habits de mariage. « Mais où sont les bidonvilles ?» demande une jeune Italienne de passage à un étudiant grec par-dessus sa valise à roulettes. Elle semble sincèrement choquée. Où sont les mendiants? Où sont les émeutes? Où est la crise grecque? Un statut protecteur de coopérative. Bessie Dinopoulos monte directement à l'étage de l'administration où un ventilateur à trois pales perd chaque jour son combat contre la moiteur de midi. À sa mort, son mari lui a laissé un héritage que lui envient ses amis. La propriété d'un autocar de la Catel à Patras, troisième port du pays. Couvrant tout le territoire, la Catel n'est pas seulement une société de transport privé, c'est une coopérative où chaque bus constitue une entreprise et surtout une sorte de héros national dans la tornade de la crise grecque. La Catel n'a jamais baissé les salaires, contrairement à presque partout ailleurs, et affiche une santé inaltérable face aux chemins de fer publics, par exemple, avec leur réseau en miettes et 1 milliard d'euros de pertes par an. 1 milliard d'euros, ça fait 1 milliard 440 000 dollars. Sur le parking, des chauffeurs blaguent, petits groupes en polo et lunettes d'aviateur. L'un revient de Volos, en Magnésie. Là-bas, tout a fermé, sauf les tavernes et les supermarchés. Du côté de Kalamata, dit un autre, on ne trouve plus ni spaghettis ni médicaments stockés ces dernières semaines au moment des négociations au sujet de la dette à Bruxelles. Surtout, plus rien ne bouge, pays figé, notamment dans les villages. Chacun reste barricadé chez soi, sauf pour les rendez-vous vraiment graves, chez le médecin ou, plus dramatique encore, dans une administration, plaisante un chauffeur. Depuis janvier, il a un nouveau bus, un Mercedes, sa marque préférée, et ce changement lui a paru bien plus capital que l'élection au même moment du gouvernement Syriza, coalition de la gauche radicale, rompant avec des décennies où les partis traditionnels, le PASOK, socialiste, et la Nouvelle Démocratie, droite, se sont succédés au pouvoir. Les premières semaines, le chauffeur n'arrivait pas à rentrer chez lui, dormant dans son car neuf, l'appelant « mon bébé ». Il dit qu'il roule si vite, tous deux, que la crise ne réussit pas à les rattraper. On rit sur le parking. Les chauffeurs gagnent 1300 euros, ça fait à peu près 1500 dollars à 1600, comme les profs, avant que les salaires de ces derniers ne dégringolent à 900 euros, à peu près 1100 dollars. Ce matin de juillet, alors que la Grèce vient de sauver sa place en Europe contre un nouveau plan de rigueur, la Catel va pourtant perdre un peu de son innocence. Dans son bureau, sous les portraits datant de 1952 des fondateurs, moustaches et sourcils conquérants, Andreas Manolopoulos, 80 ans, président de la Catel Patras, téléphone. Chacune des 60 régions possède son Catel, indépendant mais connecté en réseau, les plus riches cotisant pour les plus pauvres. Patras fait partie des gros, 150 quarts. La moitié appartient aux chauffeurs, l'autre à des propriétaires comme Bessie, la charmante veuve. On vend et on achète entre soi, par cooptation, en s'entendant pour que nul ne possède trop de bus pour maintenir un équilibre. Le président est un actionnaire d'importance, 2 bus à Patras, 1 à Delphes, par amour de la ville. Dans le hall, un homme harangue les voyageurs. « Vous, les Grecs, vous devez en baver pour votre propre intérêt !» Il a émigré en Allemagne depuis 32 ans. Sa femme déplace bruyamment leurs paquets pour tenter de couvrir sa voie. « On avait confiance dans la vie, » dit une restauratrice qui arrive de l'île de Kefalonia. Tout paraissait à portée de la main, faire des études, se marier, acheter une robe. Elle-même a renoncé à divorcer. Trop cher. Dans des villages perdus, on va parfois à l'arrêt de la Catel, rien que pour se rassurer et vérifier que le bus passe encore, seul signe tangible que la Grèce continue d'exister, là-bas derrière la montagne. En 5 ans, la fréquentation des passagers a chuté de 30% seulement, comme ment une guichetière, parce que les gens renoncent davantage à la voiture avec la flambée du prix de l'essence. Il arrive qu'on offre un ticket aux plus pauvres. Rarement. Ils ont honte. La Catel n'a pas augmenté ses prix, malgré les hausses de TVA, passées de 8 à 9% puis à 13% au fil des renégociations de la dette. Le taux de TVA dans chaque pays est d'ailleurs devenu la première question aux étrangers. Une Française rit. Elle ne sait pas. Un bagagiste lui offre une rose. Profitez-en. Nous non plus, on ne savait pas avant. Il porte un collier de perles noires. Ses yeux sont d'un bleu étincelant. Tout à l'heure, il retournera pêcher. Des poissons passent de main en main en photo sur les téléphones portables. Yeux bleus pense que son travail est le moins important du monde, mais il n'y a que les femmes de ménage en dessous de nous. Mais il l'aime. Il dit à son fils qui a 11 ans. « Ce n'est pas mal du tout, tu sais. Je te fais rentrer à la Catel si tu veux. » Alors voilà un article particulièrement réconfortant, bien évidemment, après vous avoir expliqué que tout allait finir dans des conditions dramatiques. Mais je trouve que ce qui est tout à fait pertinent, tout à fait intéressant de relever dans un commentaire comme celui-là, c'est le fait que ce qui sauve ce type d'entreprise, c'est un système mutualiste, c'est un système de mise en commun des choses, c'est un système communautaire. Eh bien, voilà des vertus qui sont très, très intéressantes quand elles sont appliquées à l'entreprise, parce que, un, ça montre que c'est une forme de résistance à la crise particulièrement forte, et deux, ça montre aussi que, il ne faut pas forcément céder à un pessimisme forcené quand les choses vont très mal.
You are the one for me, for me, for me formidable. You are my love, very, very, very véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare. My Daisy, Daisy, Daisy désirable. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis c'est à peu près tout. You are the one for me, for me, for me formidable. You are the one for me, for me, for me formidable. But how can you see me, see me, see me, see me noble? Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire dans la langue de Molière. Toi, tes eyes, ton nose, tes lips adorables. Tu n'as pas compris, tant pis, ne t'en fais pas et viens-t'en dans mes bras. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis le reste on s'en fout. You are the one for me, for me, for me formidable. Je me demande même pourquoi je t'aime, toi qui te moques de moi et de tout avec ton air canaille, canaille, canaille. How can I love you?
C'était Charles Aznavour qui nous disait « Formé, formé, formidable ». Bon, une superbe chanson qui n'a pas vieilli. Et maintenant, on va parler un peu téléphone. Alors, les téléphones prétendus intelligents, ben vous allez voir que non seulement ils ne sont pas si intelligents que ça, mais ils sont parfois tout à fait malhonnêtes, en tout cas ceux qui les fabriquent ou ceux qui les exploitent ou ceux qui nous vendent leur usage. Oui, oui, lorsqu'on perd toute méfiance, ou pour le dire autrement, lorsqu'on se laisse aller à un excès de confiance, c'est finalement la même chose, on court un grand risque, hein, celui de se faire gruger, de se faire abuser, voler, voire les trois à la fois. Ben, c'est exactement ce qui peut vous arriver avec votre cellulaire. Et Pierre Manière, dans La Tribune, nous en dit un peu plus sur la vulnérabilité de ces téléphones. Si pour l'heure, les attaques envers les smartphones apparaissent limitées, ces terminaux qui foisonnent de données sensibles apparaissent comme des proies de choix pour les cybercriminels. De la gestion des comptes bancaires aux achats en ligne en passant par les applis de rencontre. Ces dernières années, les smartphones sont devenus les supports de référence pour quantité de données personnelles et professionnelles sensibles. Logiquement, ils constituent donc des cibles de choix pour les hackers et cybercriminels. Et en particulier, les terminaux sous Android, le système d'exploitation de Google. Et pour cause, selon le cabinet IDC, ils représentent plus de 81% des terminaux écoulés en 2014 à, tenez-vous bien, 1 milliard d'unités. Après une étude publiée en octobre 2014 par Kaspersky Lab avec Interpol, Kaspersky, comme vous le savez, c'est une société de logiciels qui développe des pare-feux, des choses comme ça, l'organisation policière internationale, Interpol, là, tout le monde connaît, hein, j'espère. 588 000 utilisateurs d'appareils mobiles sous Android ont été victimes d'attaques visant leurs informations bancaires. Bancaires, sur un an. Faites attention quand vous consultez vos comptes en banque sur votre téléphone. Hein. Bon, j'ai les noms, hein, de ceux qui le font, là. Bon, je les donne à l'antenne dans 2 minutes. Bien, dans son enquête, la société de sécurité informatique affirme que ce chiffre est 6 fois plus important qu'au cours des 12 mois précédents. Plus globalement, au début d'année, une étude d'Alcatel-Lucent, basée sur les données de sa division Mobile Security Labs, a évalué que 16 millions d'appareils mobiles auraient été infectés en 2014, en hausse de 25% sur un an. Sans pour autant minimiser ces chiffres, qui émanent en outre de sociétés spécialisées dans la cybersécurité, seule une très faible proportion des terminaux est concernée par ces attaques. Il n'y a donc pas pour l'heure matière à tirer la sonnette d'alarme. directeur de la stratégie au cabinet Lexi, spécialiste en cybersécurité. Jérôme Robert en convient, il faut savoir raison garder. Moi, je veux bien qu'on garde raison, seulement le jour où on se fait piquer ses données, on peut bien se pencher sur les statistiques, on ne voit plus du tout les choses de la même façon. Toutefois, d'après lui, vous allez voir qu'il va déjà commencer à tempérer ses propos, il ne fait aucun doute que les pirates vont à terme concentrer leurs attaques sur les smartphones. Avec l'essor du M-banking, les mobinautes, oh c'est joli ce mot, êtes-vous un mobinaute, deviennent des proies de choix, indique-t-il. Il faut dire que sur ce créneau, les applications sont en plein boom. En témoigne Orange qui veut lancer l'année prochaine une banque en ligne 100% utilisable sur mobile. Dans son secteur banque-assurance, Lexi compte une cinquantaine de gros clients en France et en Europe. Ses experts surveillent la toile et les milieux de hackers pour identifier des fraudes diverses, comme une usurpation de marque visant à récupérer les données bancaires des particuliers. Concernant les fraudes mobiles, on a lancé 130 alertes à nos clients l'an dernier contre 63 en 2013, constate Jérôme Robert. Sur les smartphones, les cybercriminels se montrent particulièrement inventifs pour mettre le nez dans le terminal d'autrui. Jérôme Robert prend l'exemple de fausses applications téléchargeables sur des équivalents de Google Play ou Apple Store et qui permettent aux pirates d'accéder aux données des individus. Mais les cybercriminels peuvent également exploiter les failles de sécurité des systèmes d'exploitation. À ce sujet, la société de sécurité Zimperium a jeté un pavé dans la mare. Dans un billet de blog publié lundi, elle affirme avoir trouvé une faille sur Android. D'après la société, celle-ci pourrait permettre à des pirates informatiques de prendre le contrôle d'un smartphone via un MMS, c'est-à-dire un texto incluant une vidéo ou un autre contenu multimédia. Sur son blog, Zimperium, qui a en amont averti Google du problème, explique « Les attaquants n'ont besoin que de votre numéro de téléphone et en l'utilisant, ils peuvent exécuter des programmes à distance via un fichier spécifiquement conçu pour cela et délivré par MMS, un texto incluant des contenus multimédia comme de la vidéo. Plus précisément, la faille repose sur une fonctionnalité baptisée « Stage Fright ». Celle-ci pré-télécharge automatiquement les extraits vidéo attachés à des textos pour éviter à leur destinataire d'avoir à attendre pour les regarder. Cela rend la faille particulièrement dangereuse puisqu'un programme malveillant peut du coup être caché dans une vidéo, laquelle sera donc activée même si le destinataire n'ouvre pas le message en tapotant dessus. Pis, le propriétaire du smartphone pourrait même n'avoir aucune idée de ce qui lui arrive si jamais le virus est configuré pour effacer le message après avoir pris pied dans le terminal. Face à ces menaces, les sociétés de cybersécurité, elles, se frottent les mains. D'après Gartner, les dépenses mondiales dans la sécurité informatique vont progresser de 8,2% en 2015 à 77 milliards d'euros. Alors, évidemment, tout ça est un appel à la prudence. On en a fait beaucoup. En voilà un de plus. Et je vous rappelle que je vous disais dans une brève, je crois, la semaine dernière, qu'une étude de je ne sais plus quelle université américaine avait démontré une corrélation entre la dépression et l'usage du téléphone. Et on était d'autant plus dépressif qu'on utilisait davantage son smartphone. Alors, faites quelque chose. Par exemple, coupez-le. Commencez par une minute, après une heure, une journée. Et puis après, la première poubelle qui passe. Alors, quelques brèves pour nous divertir. Je vais vous parler d'un truc très intéressant. Figurez-vous que notre manière de penser détermine le style de musique que l'on écoute. Alors, la musique occupe une place essentielle dans la vie quotidienne de chacun, on le sait bien. Mais pourquoi est-ce qu'on aime tel ou tel style? Alors, il y a une équipe de scientifiques de l'université de Cambridge qui s'est penchée là-dessus très sérieusement. Par exemple, les cartésiens aiment le hard rock. Hein, marrant ça, voilà. Et ceux qui ont un tempérament plus empathique, alors je vous rappelle que l'empathie n'est pas une sympathie excessive, mais seulement la capacité de se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Donc on peut avoir de l'empathie pour quelqu'un qu'on déteste. Hein, ne pas oublier ça. Eh bien, les gens qui ont un tempérament empathique, donc qui ont une capacité à se mettre à la place des autres, et préfèrent la musique douce comme la country, le folk, les chansons d'auteur et le pop rock. On pourrait imaginer le contraire, mais les gens qui aiment le hard rock, le punk et les musiques complexes comme les musiques électroniques sont des gens extrêmement rationnels. Ah, voilà une bonne nouvelle. Bien, alors maintenant, des choses beaucoup moins drôles, les groupes miniers licencient face à la chute des cours des matières premières. Vous savez qu'on assiste en ce moment à une descente vraiment absolument colossale des cours de la plupart des matières premières. Tout ça est évidemment entraîné par la baisse des cours du pétrole. Eh bien, le groupe minier Anglo-American a annoncé vendredi qu'il supprimerait 6 000 emplois environ dans les 2 années à venir. Pourtant, c'est à peu près le dernier secteur qu'on s'attendrait à voir figurer sur la liste des entreprises qui licencient. Eh bien, c'est le cas. Faut dire que le bénéfice d'exploitation semestriel de Anglo-American a chuté de 36%. C'était quand même une entreprise qui a 151 000 employés dans le monde. Alors, un truc qui va vous faire plaisir si vous habitez la Chine. Eh bien, figurez-vous que, saviez-vous d'abord qu'il était interdit d'acheter une console de jeu en Chine? Ah, oui, vous le saviez? Bon, c'est pour ça que vous ne vouliez pas y aller. Eh bien, maintenant, c'est permis. L'interdiction des ventes de consoles en Chine a été levée. Ça avait été imposé en 2000. Bon, cela dit, alors j'ai une mauvaise nouvelle parce que vous pouvez acheter une console, mais les jeux sont soumis à la censure. Donc je sais pas, on doit pouvoir acheter Mario là, si je me souviens bien, c'est un truc où on fait des choses qui ne s'opposent pas à l'idéologie communiste. Non, il n'y a pas de problème? Non? Bon, d'accord. Bon, je vais vérifier tout ça, je vous en reparlerai. J'ai une très mauvaise nouvelle. Alors ça, c'est pas une mauvaise nouvelle, c'est une nouvelle triste, triste, triste. Mais à chaque fois que ça arrive, j'en parle parce que il faut se révolter contre ça. Encore un adieu à une librairie. La librairie Colisée, hein, le Colisée du livre, c'est une entité à Québec. Eh bien, elle a 3 magasins dans tout le Canada. C'est une enseigne qui vend des livres neufs et d'occasion à prix réduit. Elle a une grande notoriété. Eh bien, elle a subi depuis quelques années une grosse baisse de clientèle. Et donc, son propriétaire, Sylvain Roch, a été contraint d'annoncer la fermeture de la boutique située dans la ville de Québec en juin dernier. Vraiment, on s'en désole. Et une librairie qui ferme, c'est vraiment un peu d'âme qui s'en va. Et c'est horrible. Alors, je vous disais tout à l'heure, jetez votre portable, jetez votre cellulaire. Quand vous l'aurez jeté, allez acheter un livre. Vous verrez, vous ne serez pas appauvri, mais largement enrichi. Bon, voilà, c'était quelques brèves pour ponctuer cette première moitié d'émission. On va revenir après une petite interruption très rapide. Surtout, ne partez pas, sauf si vous voulez aller jeter votre cellulaire, et revenez-nous dans quelques instants.
Vous écoutez Kiosque Magazine.
Alors, on parle beaucoup de récession au pays ces temps-ci. Enfin, vous avez certainement noté qu'il y a eu pas mal de déclarations publiques, il y a eu pas mal d'articles. Et la baisse du produit intérieur brut pendant plusieurs mois consécutifs est, en théorie économique, un des critères de la mesure d'une récession, hein. Enfin, du moins en termes macroéconomiques. Et malgré la guerre des chiffres et des communiqués à laquelle je faisais allusion à l'instant, il semble bien que cette baisse soit quand même depuis 5 mois une réalité. Alors ça a intéressé Pierre Saint-Arnaud dans la presse et je vous lis son article. Le Canada n'échappera pas à la récession, mais celle-ci ne ressemblera en rien aux récessions classiques qui ont marqué les années 1980 ou 1990 ou la crise financière de 2008. Les données rendues publiques par Statistique Canada vendredi indiquent en effet que le produit intérieur brut réel s'est contracté pour un 5e mois consécutif en mai, cédant 0,2%, pardon, en raison des faiblesses dans les secteurs de la fabrication, de l'extraction minière, de l'exploitation en carrière, de l'extraction pétrolière et gazière dans le commerce de gros. Et vous voyez, on y faisait allusion tout à l'heure dans une brève, et on voit bien comment la baisse d'une matière première peut avoir des effets pervers, parce que dans un premier temps, on est content de payer moins cher son litre d'essence à la pompe, mais dans un second, on peut aussi s'apercevoir que la chute des cours entraîne des licenciements. Une récession, par définition, survient lorsqu'une économie connaît 2 trimestres consécutifs de contraction, et tout indique que ce sera le cas lorsque les données du mois de juin seront connues. Pour éviter que le deuxième trimestre soit négatif, il faudrait avoir une croissance mensuelle d'1% ou plus en juin, ce qui n'est arrivé que 2 fois dans l'histoire, a mentionné l'économiste en chef du mouvement Desjardins, Benoît Durocher, en entrevue avec la presse canadienne. Il est hautement improbable qu'on puisse éviter la récession, a-t-il ajouté. Cependant, les chiffres peuvent être trompeurs. Benoît Durocher parle d'ailleurs d'une récession technique, d'une part parce que l'ampleur du recul est assez faible par rapport à ce que l'on a connu lors de récessions plus classiques. D'autre part, les difficultés sont très concentrées. Son confrère Sébastien Lavoie, économiste en chef adjoint à la Banque Laurentienne, hésite même à parler de récession. D'un point de vue technique, oui, le Canada est en récession, dit-il, mais la faiblesse de l'économie est concentrée évidemment dans les provinces pétrolières. Alberta, Saskatchewan, je n'arriverai jamais à dire le nom de cette province. Hein? Oui, vous croyez? Merci. Merci Mathieu, c'est gentil. Bon, Saskatchewan, pas mal, hein? Bon, Terre-Neuve. On a du mal à ressentir cette faiblesse du côté de l'Ontario ou du Québec, par exemple. On peut peut-être... Ah tiens, pour une fois qu'on ne dit pas du mal de Québec dans la récession économique, je vais insister, je me demande si je ne vais pas relire la phrase deux fois. On peut peut-être utiliser le mot « contraction » pour l'instant. Dans le secteur de l'extraction de pétrole et de gaz, on a constaté un repli de 1%, attribuable à une baisse dans l'extraction de pétrole et de gaz naturel par des méthodes classiques. L'extraction de pétrole par des méthodes non classiques a également connu un recul, ajoute Statistique Canada. Les deux économistes s'avouent d'ailleurs étonnés non pas de la baisse de la production manufacturière, qui était prévisible en raison de la baisse de demande d'équipement dans le secteur de l'énergie, mais de l'ampleur du recul qui atteint 1,7% après un mois d'avril stable. C'est énorme, estime Sébastien Lavoie, surtout dans un contexte de repli du dollar face à la devise américaine. C'est un peu mystérieux et décevant en fait, poursuit Benoît Durocher. Avec la dépréciation du dollar canadien et l'économie américaine qui affiche une certaine vitalité, on se serait attendu à ce que le secteur de la fabrication contribue davantage à la croissance économique. Dans les autres données, on constate que le commerce de détail a légèrement augmenté de 0,5%, tandis que le commerce de gros a chuté de 1,6%. D'après le rapport de Statistique Canada, le secteur de l'hébergement et des services de restauration a progressé en mai de 0,9%, parallèlement à une hausse du tourisme. Celui de la construction a été en hausse de 1%. On peut se permettre d'être un peu plus optimiste pour la deuxième moitié de 2015, estime Benoît Durocher. Il appuie cette affirmation sur le fait que la demande américaine demeure assez vigoureuse dans un contexte de dépréciation du dollar canadien et il dit s'attendre à une certaine stabilisation dans le secteur de l'énergie. Le gros des baisses est derrière nous. Quand il dit le gros des baisses, évidemment, il parle des prix du pétrole. Donc l'effet négatif sur le secteur de l'énergie devrait tendre à s'estomper graduellement, ce qui devrait permettre à l'économie canadienne de reprendre son souffle en deuxième moitié d'année. Cet optimisme est toutefois loin d'être partagé par son confrère de la Banque Laurentienne. Dernièrement, on a eu des développements plutôt défavorables sur le marché mondial du pétrole et ça va tranquillement se transmettre possiblement par des chiffres peut-être encore peu reluisants. « On n'a pas encore atteint le creux, selon moi », affirme Sébastien Lavoie. Il souligne que la confiance des entreprises était en baisse au mois de juillet et que d'autres facteurs laissent croire qu'il sera difficile de chasser la morosité. Il commence à y avoir quelques doutes quant à un rebond pour la deuxième moitié de l'année. On a vu cette semaine des entreprises dans le secteur pétrolier annoncer une nouvelle vague de coupes, en capital et en emploi, et on sait que le secteur immobilier devrait ralentir aussi d'ici la fin de l'année, souligne-t-il. Tout ça vient contrecarrer l'attente d'un raffermissement de la croissance économique. Bien, alors évidemment, ce n'est pas très gai, mais néanmoins, on peut quand même faire aussi une conclusion parallèle, c'est que cette récession, cette annonce de récession, cette récession possible, est la conséquence d'une baisse des cours du pétrole, il faut partir de là pour la comprendre, c'est donc pas lié à une désorganisation de l'économie ou à un ralentissement de l'activité manufacturière dans le pays. On peut donc aussi considérer que il y a une possible remontée et remise à niveau des choses dès que les cours des matières premières reprendront un aspect un peu plus positif. Alors évidemment, je sais que beaucoup d'analystes spéculent sur le fait que la baisse des cours du pétrole restera à peu près au niveau des $50 le baril pendant les deux années qui viennent. Mais enfin, on sait ce qu'il en est des prévisions. Je vous rappelle cette merveilleuse phrase de M. Galbraith, prix Nobel d'économie, quand il est monté à la tribune. L'économie a été inventée pour donner ses lettres de noblesse à l'astrologie. Alors, un petit tour chez nos grands voisins du Sud. Le président Obama a fait de la lutte contre le réchauffement climatique une promesse électorale lors de sa campagne de 2008. Alors, on sait que beaucoup lui reprochent en cette presque fin de mandat son manque de résultats, et notamment en politique étrangère. Est-ce que les questions environnementales feront l'objet d'un sursaut ? Enfin, il faut aussi rappeler que le président américain n'a pas toutes les clés en main et que face à un congrès dans lequel il n'y a pas de majorité qu'il soutient, ça va être un petit peu difficile. Mais enfin, les discours d'Obama qui sont toujours si brillants et si extraordinaires, il n'y a vraiment pas beaucoup de politiciens sur la planète capables, face à un micro, de soulever l'enthousiasme et d'avoir une qualité de parole aussi élevée. Donc je crois que c'est intéressant de commenter la dernière prise de position qu'il a eue sur le réchauffement climatique. Ça a intéressé en tout cas Gilles Paris dans Le Monde du 3 août. Et je vous lis son article. Au président climato-sceptique et républicain de la commission sénatoriale chargée de l'environnement, James Inhofe, qui avait considéré en février, boule de neige en main, qu'il faisait très froid en hiver, le président des États-Unis, Barack Obama, pourra faire remarquer lundi 3 août qu'il fait très chaud en été. Alors que l'état d'urgence a été déclaré vendredi 31 juillet en Californie, en proie à d'importants incendies, les fortes chaleurs ont en effet obligé la Maison-Blanche à déplacer la cérémonie de présentation de nouvelles régulations visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et donc lutter contre le changement climatique. Celle-ci devrait se tenir à l'intérieur du bâtiment alors qu'elle avait été prévue initialement sur l'une de ses pelouses adjacentes. Les nouveaux objectifs fixés aux centrales thermiques américaines que M. Obama devrait détailler lundi, mais que le Washington Post a publié dans son édition du 2 août, sont plus ambitieux que ceux présentés initialement en juin 2014. D'ici à 2030, les États-Unis devront en effet réduire de 32% leurs émissions de gaz à effet de serre liées à la production d'électricité sur la base de celles enregistrées en 2005. La première version visait une réduction de 30%. D'ailleurs, on peut rappeler une chose, parce qu'il y a un chiffre qui est extrêmement parlant. Lorsque vous produisez à quantité équivalente produite de l'électricité avec du gaz, et que vous produisez donc la même quantité avec du charbon, eh bien la quantité de gaz à effet de serre qui vient de votre électricité produite avec du charbon est le double, exactement le double de celle émise avec l'électricité faite à partir de gaz. Donc ça parle évidemment très clairement. Le plan américain pour une énergie propre, America's Clean Power Plan, piloté par l'Environmental Protection Agency, allie la rigueur à la flexibilité. Ah, j'adore qu'on allie la rigueur à la flexibilité, ça annonce en général des catastrophes. Plus question pour les États de miser sur l'efficacité énergétique ou l'effet d'éviction du charbon au profit du gaz de schiste, devenu abondant aux États-Unis au cours de la dernière décennie, mais dont la production entraîne des émissions de méthane, au potentiel de réchauffement largement supérieur à celui du CO2. L'accent est au contraire mis sur les énergies renouvelables, comme le solaire et l'éolien, dont la part pour la production d'électricité passera à 28% en 2030 au lieu de 22% initialement. Ça n'a pas l'air d'être beaucoup, mais c'est énorme en progression. L'administration compte subventionner ces sources d'énergie pour accompagner les États dans leur délicate transition. En effet, les centrales thermiques au charbon, dont la prééminence n'a cessé d'être remise en cause par la montée en charge de celles au gaz, comptent encore pour plus de la moitié de la production d'électricité dans 14 États et pour un tiers dans 25, selon l'administration américaine, soit la même part qu'au niveau national. Dans trois États charbonniers, la Virginie occidentale, le Kentucky et le Wyoming, cette part est même supérieure à, tenez-vous bien, 87%. Pour tenter de désarmer les oppositions, la version du plan qui devrait être présentée lundi fixe aux États un délai supplémentaire de 2 ans jusqu'en 2022 pour s'engager dans ces réductions, évoque des mutualisations entre États et prévoit une plus grande souplesse pour éviter les pénuries qui seraient liées à la transition. Cette flexibilité ne sera cependant pas suffisante pour ceux qui s'opposent à cette attaque en règle contre les 1200 centrales à charbon que comptent encore les États-Unis. Dans le scénario de la première version du plan publié par l'EIA, elle signifiait déjà l'arrêt d'un tiers de cette production d'électricité en 2030 par rapport à la production de 2005. Élu du Kentucky, le chef de la majorité républicaine du Sénat, Mitch McConnell, a de longue date fait part de son opposition aux ambitions de l'EPA. Il a invité les États les plus dépendants du charbon à s'engager dans une guérilla juridique en dénonçant l'intervention de l'État fédéral dans ce qu'ils considèrent comme les affaires relevant de leur seule responsabilité. Faute de disposer d'une majorité au Congrès sur ces questions environnementales, M. Obama n'a pas pu mettre sur pied le marché du carbone qu'il avait initialement envisagé. Mais la partie est cependant compliquée pour les thuriféraires du roi charbon, qui dénonce par avance les surcoûts de ce plan pour l'économie américaine, alors que l'administration promet au contraire aux consommateurs une baisse de leur facture d'électricité, avançant même le montant extrêmement précis de $85 par an une fois les objectifs atteints. Si les États rechignent à présenter un plan, l'EPA pourra en effet leur en imposer un. L'administration a recours à la voie réglementaire et au bras armé de l'EPA, forte de l'arrêt rendu par la Cour suprême en 2007. Cet arrêt a disposé que le dioxyde de carbone est un polluant et que l'agence est donc fondée en vertu du Clean Air Act, adopté 4 décennies plus tôt, à lutter contre ces émissions. L'industrie a d'ailleurs commencé à anticiper cette évolution selon l'EIA, qui avait déjà indiqué en mars que la production d'électricité par combustion du charbon allait baisser de 12,9 gigawatts en 2015, dans un marché pourtant en expansion de 20 gigawatts, principalement dans l'éolien. Bon, tout ça, évidemment, ça ne fait que nous rappeler que tout va très mal, que la maison brûle, comme disait le président français Chirac il y a quelques années. Ben, la maison, elle continue de brûler. Et si vous voulez avoir une idée de la façon concrète de vous représenter les choses, ben, prenez le Groenland, mettez toute la presqu'île de Manhattan sur le Groenland et imaginez qu'elle soit 10 fois plus haute que ce qu'elle est actuellement. Donc, vous prenez les plus hautes tours de Manhattan, vous les multipliez par 10. Eh bien, vous laissez tout ça s'effondrer dans la mer et vous avez une idée du manteau de glace qui a disparu en une seule année.
Keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right. Because you're mine, I walk the line. You've got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide. Because you're mine, I walk the line. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line.
C'était Johnny Cash qui nous chantait « I walk the line ». Je ne sais pas s'il pensait au Groenland et aux conditions climatiques, mais en tout cas, ça pourrait s'appliquer. C'était donc un excellent choix musical. Alors, on va terminer en restant aux États-Unis et en parlant salaire minimum. La petite histoire raconte que le gouverneur de l'État de New York, après un passage dans un fast-food, je ne dirais pas le nom, mais on imagine lequel ça pouvait être, a été scandalisé d'apprendre que le salaire payé aux employés de base avoisinait les 8 dollars. Et divers mouvements, à commencer par le célèbre Libéré Wall Street, ont accompagné son indignation. Et finalement, on est en train de s'acheminer vers une augmentation du salaire minimum aux alentours de 15 dollars, ce qui est assez étonnant et qui est évidemment une très bonne nouvelle. Donc, ce fructueux élan, ben oui, on peut faire la liaison, de solidarité, c'est le titre d'un article de Guy Taillefer dans Le Devoir du 3 août. Et je vous le lis. Le vieux débat sur le salaire minimum s'est invité dans la campagne présidentielle qui s'amorce aux États-Unis. Vieux débat puisque sur cet enjeu, les désespérants républicains beuglent depuis toujours leur désapprobation, depuis en fait l'adoption en 1938 de la toute première loi sur le salaire minimum sous le New Deal. L'histoire démontre pourtant, ce qu'ils ne voudront jamais admettre, qu'il s'agit d'un instrument clé de sécurité économique et de lutte contre la pauvreté. Le mouvement actuel en faveur d'une hausse du salaire minimum est né en 2012 parmi les employés de chaînes de restauration rapide à New York, dans la foulée du coup de gueule social que fut Occupy Wall Street. Le mouvement baptisé Fight for $15 Campaign, soutenu par les grands syndicats, ou du moins ce qu'il en reste, a depuis fait tache d'huile un peu partout dans le pays chez les travailleurs du commerce au détail, dans les garderies, parmi les employés d'aéroports. Non sans un certain succès. Il y a deux semaines, suivant des décisions prises à l'échelle de l'État de New York et dans les villes de Washington et Los Angeles, des milliers de petits employés, dont un grand nombre sont évidemment des femmes, ont obtenu que leur salaire allait progressivement passer à $15 l'heure, soit plus du double du salaire minimum fédéral de $7,25. Vous vous rendez compte, $7,25 comme salaire minimum, c'est indécent, qui n'a pas bougé depuis des années en plus. Sans aller aussi loin, d'autres villes comme Chicago, Seattle et San Francisco ont également annoncé des augmentations du salaire minimum. Le doublement du salaire minimum légal est spectaculaire et soulève la controverse pour ce qui concerne son impact sur les prix à la consommation et le marché de l'emploi, un clou sur lequel ne se privent pas de taper les républicains, d'autant que le débat touche la corde sensible de leur anti-étatisme. S'il est logique que la hausse du salaire minimum soit calibrée d'une région à l'autre en fonction du niveau de santé économique de chacune, et s'il faut faire attention de ne pas nuire par effet pervers au développement des PME, terreau de l'économie nationale, il reste que des décennies de recherches menées aux États-Unis ont montré que l'ajustement du salaire minimum était non seulement essentiel à la survie économique de dizaines de millions d'Américains, mais aussi qu'il était utile à l'économie de consommation capitaliste, ce qui devrait réjouir la droite politique, mais ce que sa cécité idéologique et sa défense des sacro-saintes marges de profit empêchent de mesurer honnêtement. Du reste, les républicains n'ont pas le monopole des pronostics catastrophistes. Le débat en Allemagne autour de l'instauration d'une rémunération minimale de 8,50 €, c'est-à-dire un peu plus de $10, l'heure a donné lieu au même scénario catastrophe de la part des détracteurs de la réforme. Hausse excessive des prix, fermeture de milliers de petites entreprises, disparition de centaines de milliers d'emplois. La réforme du marché du travail est entrée en vigueur au début de l'année. Le cataclysme ne s'est pas encore produit. S'il y a consensus social au Québec à ce sujet et que le gouvernement hausse le salaire minimum par petites doses, le monde des affaires se répand chaque fois en lamentation. En Alberta, où le tout nouveau gouvernement néo-démocrate a annoncé que le salaire minimum passera le 1er octobre de $10,20 à $11,20, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante a prévenu que cette mesure pourrait faire perdre 183 000 emplois. Une panoplie d'études ont pourtant documenté depuis 20 ans le fait que ces précisions étaient foncièrement alarmistes. Vu la campagne présidentielle, la hausse du salaire minimum devient une pièce maîtresse de la plateforme démocrate. Barack Obama et Hillary Clinton s'en sont fait les champions. Il ne s'agit pas pour autant, d'une panacée contre le creusement des inégalités. Un papier du New York Times publié l'année dernière a montré à quel point le salaire minimum actuel de $7,25 était scandaleusement bas et a calculé qu'il faudrait le relever de près de $4 l'heure pour garantir un revenu qui ne soit pas sous le seuil de pauvreté. Cette inadéquation s'inscrit dans un contexte de stagnation généralisée des salaires. Elle traduit ensuite un climat d'éliquescence des droits des salariés et d'affaiblissement marqué des syndicats comme contre-pouvoir au désiderata des élites économiques. Le démocrate Obama avait promis en 2008 de faciliter l'accès à la syndicalisation et de renforcer les droits à la négociation collective. Il n'en a rien fait. Alors, on a compris que la sensibilité politique de l'auteur de l'article n'était vraisemblablement pas républicaine. On ne peut que le trouver fort sympathique d'avoir cette position. Et moi, je trouve très intéressant que la démonstration qui est faite dans l'article, parce que bon... De façon sous-jacente, on comprend que la position des républicains, c'est de dire il faut laisser les riches s'enrichir parce que plus les riches sont riches, plus ils permettent aux pauvres d'avoir des emplois. Ce qui, évidemment, semble tout aussi provocateur que de dire que l'augmentation du salaire minimum va provoquer du chômage. Alors, d'ailleurs, on pourrait rétorquer, on ne le fera jamais assez, vis-à-vis des républicains qui voudraient que les riches s'enrichissent et que les pauvres s'appauvrissent, comme si c'était une bonne façon de maintenir un équilibre dans les sociétés, eh bien, ça me rappelle cette... je ne sais plus, je crois que c'est sous la Troisième République, hein, en France, un député qui avait lancé à la tribune « Et qu'est-ce que vous feriez s'il n'y avait plus de riches ?» Un monsieur bien connu qui s'appelait Proudhon et qui avait eu cette belle réponse. « Eh bien, monsieur, s'il n'y avait plus de riches, il n'y aurait plus de pauvres. » Bon, je me sens tellement coupable d'avoir dit du mal des téléphones cellulaires. Là. Il y a eu 4503 coups de téléphone pour se plaindre. Donc, je vais vous donner une bonne nouvelle. Si vous n'êtes pas parti en vacances encore, si vous voulez faire un peu de camping et aller en Abitibi, ben, écoutez, 30% des campings de l'Abitibi sont branchés. Donc ça, c'est formidable. Vous avez le Wi-Fi. Vous pouvez ne pas parler à votre blonde ou à votre chum. C'est parfait. Et je ne sais plus, il y avait sur une autoroute québécoise, je crois, il n'y a pas longtemps, il y avait je ne sais pas qui l'a fait d'ailleurs, mais quelqu'un qui était très, 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 très bien, à mon avis, intentionné, qui avait mis une pancarte à l'entrée de la bretelle d'autoroute et il y avait écrit « Sur cette autoroute, nous n'avons pas le Wi-Fi, parlez-vous entre vous ». Je trouvais sympathique ça comme initiative. Bon, moi, je cherche plein de nouvelles pour dire des bonnes choses là, du Québec et j'ai trouvé un truc sur Desjardins parce que vous vous souvenez que quand on avait fait un commentaire sur les meilleures banques au monde, Desjardins se trouvait dans une très très bonne position. Eh bien, elle est toujours, tenez-vous bien, au cinquième rang mondial des institutions financières. Hein, c'est pas mal. Parce que voilà, les touristes, là, quand ils arrivent et on voit le grand immeuble sur la place des Arts à Montréal, Desjardins tout en haut, là, le signal lumineux en haut de l'hôtel Marriott, on se dit « Oh tiens, c'est marrant, une petite compagnie locale, une petite banque, Desjardins, personne ne connaît. » Eh ben non, c'est la cinquième institution financière mondiale. Pas mal. Moi, je suis très fier. Bon, alors, quoi d'autre? Alors, je ne reparle pas de la récession parce que j'avais quelques nouvelles là, mais c'est encore des articles pour dire on s'enfonce et tout. Pas du tout. Par contre, alors si quand même, un mauvais point à Ottawa encore sur ces positions sur l'environnement qui font que le Canada est vraiment un des élèves les plus en retard dans la classe des réformes à mener pour sauver un peu la planète. Et quand même, Greenpeace, qu'on peut contester sur bien des points, a fait quand même un certain nombre de remarques et d'études et d'interventions et des prix d'initiative pour dire attention à ce qu'on fait dans les forêts, attention à la destruction du caribou, etc. etc. Eh bien, vraiment, ces pressions n'ont pas l'air d'aboutir beaucoup et les réactions ministérielles sont extrêmement molles, je dirais, par rapport à ces problèmes. Et bah, écoutez, si on continue de regarder la maison brûlée plutôt que de faire la chaîne en se passant des seaux d'eau, ça va mal finir. Et surtout pour les caribous qu'on aime beaucoup, nous le savons. Alors, par contre, Santé Canada, beaucoup plus sérieux que Canada Environnement, remet de l'ordre dans les produits homéopathiques. Hein. On ne pourra plus prétendre que certains produits homéopathiques peuvent soigner les enfants de moins de 12 ans et qu'on peut, avec des produits dilués dans l'eau jusqu'à des compositions qu'on n'arrive même pas à voir au microscope, se guérir d'un rhume ou de la grippe. Et d'ailleurs, j'ai trouvé que Santé Canada avait beaucoup d'humour parce qu'ils ont fait cette interdiction en disant qu'elle pourrait être levée dès que les preuves scientifiques du contraire seront apportées. Donc, on souhaite beaucoup de chance aux chercheurs en homéopathie. Je vous ai parlé la semaine dernière du partenariat transpacifique, hein, des négociations qui se menaient sur ce partenariat qui est un des plus importants du monde. Et bien, malheureusement, c'est un échec et les termes, personne, on n'a pas pu lever les obstacles. Et pourtant, on se croyait en finalisation du processus. Et bien, malheureusement, ça n'est pas le cas. Donc, cette immense zone de libre-échange qui devait couvrir 40% de l'économie mondiale n'a pas l'air de se mettre en place, du moins actuellement. Il faudra probablement revenir à la table des négociations, trouver d'autres arguments. Et comme quoi, c'est toujours difficile de se mettre d'accord. Bien, je vous le disais tout à l'heure, le pétrole, le pétrole baisse. Alors, les derniers cours sur le NYMEX. Le NYMEX, à New York, l'endroit où s'échange le pétrole et où se définissent les cours. On est à 47,52 dollars, donc effectivement, c'est les alentours de 50. Beaucoup d'analystes pensent que ça va durer 2 ans. Je ne vous redis pas la phrase de Galbraith, vous l'avez retenue et probablement écrite en lettres d'or dans vos agendas pour la ressortir à la fin d'un dîner. Ça fait toujours un effet très spectaculaire. Voilà, et puis. Ah oui, je vais finir juste sur une nouvelle très triste. Vous vous souvenez de Hitchbot, là, le robot qui faisait le tour de. Eh ben, il a été sauvagement agressé et mis en pièces. Bon, enfin, c'est très très triste, là. Maintenant, si on se met à tuer les robots, qu'est-ce qu'on va faire aux humains? Moi, je suis très inquiet. Eh ben voilà, je crois que c'est à peu près terminé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je serai encore seul avec vous. Je remercie infiniment Mathieu Tessier qui a assuré la mise en onde de cette émission avec un brio coutumier. Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine en vous souhaitant une excellente journée.